L'homme est un mammifère comme les autres. Voilà le titre que donnait la radio France Inter à une émission diffusée en juin 2013. Et la présentation de l'émission commençait ainsi. Nous, Homo sapiens, sommes des mammifères et ce, au même titre que les 5000 autres espèces poilues peuplant la Terre qui donnent naissance à des jeunes que leur mère allaite dans le premier âge. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Diriez-vous que nous sommes des mammifères? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce thème, hein. Il y a d'autres qui sont plus calés que moi ici, vous pourrez leur poser des questions. Mais la science classe l'homme, Homo sapiens, parmi les hominidés. Et nous avons appris à l'école, et nos enfants apprennent, ce que les successeurs de Darwin ont élaboré comme théorie de l'évolution. Darwin lui-même pensait que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs, pour lui, que l'homme descend du singe, comme on le dit parfois. La science tente de comprendre le fonctionnement du monde, mais ne peut pas dire pourquoi le monde fonctionne ainsi. Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet? Que dit Dieu des origines de notre humanité et des origines des animaux? Et quelle relation les hommes et les animaux ont-ils à l'origine et aujourd'hui? C'est sur ces questions que nous allons nous pencher un petit peu ce matin et essayer de trouver ensemble quelques éléments de réponse dans le livre de la Genèse que nous avons commencé à ouvrir il y a déjà quelques semaines et que nous allons ouvrir de nouveau ce matin. Donc vous pouvez prendre votre Bible et l'ouvrir aux premières pages de la Bible, Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 1, le premier chapitre de la Bible. Et nous continuons notre thème ce matin, Dieu nous parle de nos origines à travers ces premiers chapitres de la Genèse. Et je vous invite à lire ensemble Genèse, chapitre 1, à partir du verset 24 et jusqu'au verset 31. Genèse, chapitre 1, verset 24 à 31. Nous sommes dans ces fameux jours de création. Et Dieu dit, verset 24, « Que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, il fit les bestiaux selon leur espèce, les reptiles et les insectes selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Dieu considéra alors tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le sixième jour. Voilà notre lecture pour ce matin. Et à partir de ce texte, j'aimerais aborder et donner quelques éléments de réponse à trois questions. Premièrement, en quoi l'homme et l'animal sont-ils proches? Deuxième question, en quoi l'homme et l'animal sont-ils différents? Troisième question, en quoi la mission de Dieu pour l'homme et la femme nous donne-t-elle, une responsabilité particulière? Première question, en quoi l'homme et l'animal sont-ils proches? ou dit autrement, comme dans cette émission radio, l'homme, l'être humain, est-il un mammifère ? Le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 1 nous parle effectivement d'une solidarité entre l'homme et l'animal. Comment ? Eh bien, en nous disant que l'homme et l'animal ont été créés le même jour. Vous avez sans doute remarqué que tout ce passage que nous avons lu est un seul et même jour de création, le sixième jour. On a ce verset 31 qui conclut « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour ». Et tout ce que nous avons lu se passe ce sixième jour. Petit rappel de ce que nous avions vu les fois précédentes, un jour, dans le récit de la Genèse chapitre 1, c'est un jour de 24 heures, mais pris au sens figuré d'une journée de travail. Et le texte nous est présenté comme une semaine de travail, six jours de travail de Dieu, et puis un jour de repos de Dieu. Le fait que Dieu crée l'animal, puis l'être humain, le même jour, est ici un symbole fort de leur solidarité. L'homme et l'animal sont donc solidaires, puisqu'ils sont créés le même jour. Mais nous trouvons ailleurs dans la Bible un autre passage qui nous montre aussi la solidarité entre l'homme et l'animal vis-à-vis de la mort. C'est l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 19 qui nous le dit. Je vous le lis, vous pouvez simplement noter la référence. Ecclésiaste 3, chapitre 18 à 20, je lis. L'Ecclésiaste réfléchit sur la vie, il dit « Je me suis dit en moi-même que Dieu éprouve les hommes afin de leur montrer qu'ils ne valent finalement guère mieux que les bêtes. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a donc aucun avantage sur l'animal, car tout passe, c'est-à-dire tout est éphémère. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière, et tout retourne à l'état de poussière. » Voilà le constat de l'Ecclésiaste qui réfléchit un petit peu sur le sens de la vie. Et quand on y réfléchit, effectivement, lorsque nous mourons, notre souffle s'arrête et notre corps se décompose, et sur ce point-là, dans ce domaine-là, nous ne sommes pas différents des mammifères, des autres mammifères. Notre corps se décompose et retourne à la poussière. C'est aussi ce que dit Genèse chapitre 3. Nous le verrons quand nous aborderons ce chapitre, et qui vient comme une sanction du péché humain. L'homme qui a été tiré de la poussière du sol retourne à la poussière lorsqu'il désobéit à Dieu. L'homme n'a donc pas de supériorité ici vis-à-vis de l'animal face à la mort. L'apôtre Paul nous le dit aussi dans le Nouveau Testament. Il dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et il nous démontre que tout être humain est pécheur devant Dieu. Et donc tout être humain mérite en quelque sorte ce salaire, qu'est la mort. Si l'être humain se révolte contre son créateur, il devient mortel, c'est ce qui s'est passé en Genèse 3, il devient mortel comme l'animal. C'est ce que nous verrons un peu plus en détail dans une prochaine prédication. Comme les animaux donc, notre souffle de vie dépend de notre créateur. Il suffit que Dieu retienne son souffle, si je puis dire, et la vie n'existe plus. C'est ce que dit le psalmiste au psaume 104, verset 29, à propos des animaux. Psaume 104, verset 29, il dit « Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent et qui redeviennent poussière. » Troisième remarque, puisque les animaux sont créés ce sixième jour, et que Dieu constate que tout ce qu'il a créé est très bon. Les animaux font partie des belles et bonnes choses que Dieu a créées. Dieu vit que c'était bon. Verset 25 et au verset 31, « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, dont l'animal et l'homme, c'était très bon. » Il me semble que ces paroles nous invitent à respecter le monde animal comme une création de Dieu. En France, La prise de conscience récente concernant la maltraitance des animaux dans le milieu agroalimentaire, par exemple, est une bonne chose. La loi française encadre aussi la maltraitance des animaux domestiques et prévoit des amendes et des peines de prison allant jusqu'à 2 ans, et 30 000 euros d'amende. Par exemple, en cas d'abandon, si vous abandonnez votre animal domestique dans la forêt, ou si vous avez manifesté envers lui des actes de cruauté. Cet été, en Amérique du Sud, un chien nommé Champion, vous avez peut-être vu passer ça aux infos, a assisté au procès de son ancienne maîtresse maltraitante. Et c'est une première. Un animal domestique présent au procès de l'homme, la femme en l'occurrence, qui l'a maltraité. Alors ça nous fait un peu sourire, et à juste titre, parce qu'on est là dans une situation quand même un peu limite. On n'a pas encore demandé à nos animaux domestiques de se prononcer, de témoigner. Mais notons quand même que ce souci de justice concernant la maltraitance d'une créature de Dieu, c'est une bonne chose au regard de notre texte de Genèse chapitre 1. Alors on reviendra à la fin de la prédication sur cette situation un peu limite et les risques d'aller encore plus loin dans notre société sur un rapprochement trop grand entre les hommes et les animaux. Mais pour l'instant, notons qu'il y a là un souci de justice qui est bon vis-à-vis de ce que nous lisons. Ne pas respecter les animaux que Dieu a créés, c'est ne pas respecter celui qui les a créés. Dans ce sens-là, et en dehors de toute considération scientifique, on pourrait dire que nous sommes solidaires, voilà, ou des mammifères solidaires des autres mammifères. Maintenant, s'il y a ces ressemblances, cette proximité et cette solidarité entre l'homme et l'animal, notre texte mentionne aussi de nombreuses différences. Premièrement, il y a une coupure très nette dans notre texte entre la création de l'animal et celle de l'être humain avec la formule « Dieu vit que c'était bon » qui vient conclure le verset 25. Je relis avec vous, Genèse 1, verset 25. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, il fit les bestiaux selon leur espèce, les reptiles et les insectes selon leur espèce. Notez cette expression qui revient à plusieurs reprises, on va y revenir. Et Dieu vit que c'était bon. Point. Puis Dieu dit, on passe à autre chose. Puis Dieu dit, faisons les hommes. Deuxième remarque, le sujet de l'action change. Ce n'est plus Dieu au singulier, il, mais Dieu au pluriel, nous. Faisons l'homme. Nous avions déjà noté ce pluriel, ce nous, ici, dans une précédente prédication. Faisons l'homme comme s'il y avait là une délibération particulière de Dieu avec son esprit pour mettre en œuvre quelque chose de spécial, d'unique. Et le texte hébreu confirme cela en utilisant le verbe « créer » au verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Et ce verbe « créer » n'est pas utilisé pour les animaux qui sont créés le sixième jour avec les hommes. On retrouve le verbe « créer » pour les animaux, les grands monstres marins du jour numéro 5. Mais le même jour que la création des hommes, l'homme est créé, tandis que les animaux sont simplement faits, fabriqués. Le terme n'est pas tout à fait le même. Troisième remarque, l'homme est créé et l'animal est fait selon un processus naturel instauré par Dieu. Cette expression « selon leur espèce » n'apparaît que pour les animaux, pas pour les êtres humains. Les hommes ne sont pas créés selon leur espèce. Les animaux sont faits selon leur espèce. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Eh bien, que l'homme n'est pas un pur fruit de la nature, ou de la reproduction des espèces. Il y a, semble-t-il, une intervention spéciale de la part de Dieu, à un moment donné. Quatrième remarque, Dieu parle à l'homme d'une manière personnelle. Verset 28, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, etc. » On ne trouve pas cette parole personnelle pour les animaux du sixième jour. Dieu s'adresse personnellement aux grands monstres marins du cinquième jour, mais pour ces animaux domestiques ou que l'homme va domestiquer, on ne trouve pas cette formule, cet appel personnel et donc cette relation personnelle que Dieu a avec nous. Et toute la suite de l'histoire de la Bible nous parle de la relation personnelle que Dieu a voulu avoir avec l'humanité et pas avec les animaux. Cela ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe plus des animaux après Genèse chapitre 1, mais sa relation avec eux n'est pas du tout la même que celle qu'il a avec nous les êtres humains. Cinquième remarque, l'être humain est créé pour être le représentant de Dieu sur terre. On avait vu ça la dernière fois, l'image de Dieu, c'est-à-dire le représentant, le texte dit même l'idole de Dieu sur terre. Et cette formule, image de Dieu, n'est pas utilisée pour l'animal. L'animal n'est pas image de Dieu. L'animal n'a pas pour mission de représenter Dieu sur terre. Et c'est aussi pour cela que Dieu condamne l'idolâtrie lorsque les hommes se fabriquent des images de Dieu sous forme d'animaux. Parce que les animaux ne sont pas image de Dieu. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, l'image de Dieu. Nous avons donc un statut particulier, un statut unique. Et parce que nous avons ce statut unique d'image de Dieu, sixième remarque, Dieu nous confie à nous, hommes et femmes, entre autres comme mission de dominer le monde animal. Verset 28, c'est là peut-être la différence la plus significative, la conséquence de ce que nous sommes image de Dieu. Dieu dit, verset 28, la page, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, ça sera pour dimanche prochain, qu'est-ce que ça veut dire se rendre maître de la terre, de la planète, et pour aujourd'hui, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Vous voyez, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité parfaite, absolue, avec les animaux. Nous, les êtres humains, sommes appelés à dominer les animaux. Il y a une hiérarchie. Les animaux nous sont soumis. C'est très clair ici dans le texte. Et une des raisons qui va conduire la femme et l'homme à se révolter contre Dieu, c'est qu'ils vont se laisser dominer par une créature, le serpent qui va les séduire. Et donc le serpent va réussir le tour de passe-passe de renverser cet ordre d'autorité en faisant que l'homme et la femme se soumettent à lui plutôt que de le soumettre à la parole de Dieu. Que nous enseignent ces données bibliques ? Premièrement, que l'être humain, bien que solidaire avec l'animal, n'est pas un mammifère comme les autres, comme le titrait cette émission de France Inter. L'homme n'est pas qu'un animal plus évolué que les autres. Bien que notre création soit racontée le même jour, le sixième jour, nous sommes très différents des animaux. Nous n'avons pas le même statut, nous sommes image de Dieu et notre mission est différente. Je vais en reparler un peu plus en détail dans un instant. Notre mission humaine va aussi au-delà de la reproduction. Deuxième remarque, un petit mot sur la théorie de l'évolution, puisque j'avais introduit la prédication en l'évoquant. Je ne suis pas un spécialiste des questions scientifiques, donc je vous invite à exercer votre esprit critique et on pourra en discuter après si vous avez un point de vue scientifique différent. Je rappelle aussi que la Bible n'est pas un manuel de science. Il faut en comprendre le sens littéraire. Rien dans ce texte de Genèse 1 ne nous oblige donc à adhérer aveuglément aux thèses de Darwin. Et rien dans ce texte ne nous oblige non plus à rejeter aveuglément les thèses de Darwin. Il n'y a ni correspondance parfaite, ni contradiction absolue entre la Bible et la science ici, puisque notre récit n'est pas une description littérale de l'évolution des espèces. Ceci dit, j'attire votre attention sur le verset 24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur espèce. Ici, le texte mentionne clairement un processus naturel mis en œuvre par Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous pensons parfois naïvement que Dieu, lorsqu'il crée ou lorsqu'il fait les choses, le fait forcément d'une manière directe, immédiate. Mais le plus souvent, Dieu intervient de manière indirecte, immédiate, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un moyen qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même mis en œuvre. Et c'est ce que l'on voit ici. Lorsque Dieu crée, Dieu ne crée pas systématiquement directement. Ici, pour les animaux, on dirait qu'il ne fait pas tout, si je puis m'exprimer ainsi. Il fait en sorte que les choses se fassent selon les processus qu'il a établis. Genèse 1 ne ferme donc pas la porte à un processus d'évolution des espèces animales. Cela n'a donc aucun sens d'opposer Darwin et la Bible. Vous avez peut-être vu ce reportage diffusé dans le journal télé il y a une semaine sur le musée de la création dans le Kentucky aux États-Unis. C'est un musée qui a été inauguré en 2007 et qui attire 300 000 visiteurs par an et qui recueille beaucoup de fonds, soit dit en passant. Fonds qui permettent d'ailleurs d'avoir fabriqué une arche de Noé grandeur nature selon les données bibliques, ce qui est un peu débile, mais voilà, il y a des gens qui dépensent de l'argent pour ça. Et dès l'entrée du musée, il y a des panneaux qui expliquent aux visiteurs que Dieu a créé le monde depuis 6000 ans et que les découvertes scientifiques et de Darwin sur l'origine de l'homme sont des mensonges. Et dans le musée, on voit Adam et Ève cohabitant avec des dinosaures, alors peut-être les animaux du cinquième jour, je ne sais pas. Voilà. Qui a raison, la Bible ou la science? Vous voyez, c'est dans ces termes que les créationnistes, là c'est financé par les chrétiens évangéliques, créationnistes, ça veut simplement dire que c'est des évangéliques qui comprennent Genèse 1 comme un manuel de science qui doit remplacer nos livres scolaires de sciences et vie de la Terre. Voilà. En gros. Il me semble que ces chrétiens, sur ce point-là, font fausse route. Pourquoi? Dans leur interprétation de Genèse chapitre 1. Est-ce que notre Terre a seulement 6000 ans? C'est possible. Voilà. J'en mettrai pas ma main à couper. Mais il est à mon avis plus probable que cette interprétation littérale de Genèse 1 décrédibilise la foi chrétienne et fasse passer les évangéliques pour des idiots. Voilà. On n'est pas obligé de rejeter les découvertes scientifiques pour être évangélique. Il y a d'autres manières de comprendre la Genèse et qui sont à mon avis beaucoup plus pertinentes que la lecture étriquée des créationnistes. Par contre, il faut aussi dénoncer le point de vue scientifique lorsqu'il devient scientiste, et je pense que c'est là aussi le combat des créationnistes, qui à mon avis est un combat juste, hein, le scientisme, c'est quand la science devient une religion. Et quand les scientifiques commencent à prendre leur théorie pour une explication du sens de la vie et de notre origine. Là, la science se fourvoie dans une réflexion et une action qui n'est pas la sienne. C'est le but de la philosophie, de la théologie, de la religion, d'apporter un sens à la vie. La science ne peut jamais que décrire comment notre monde fonctionne. À partir du moment où elle nous dit pourquoi notre monde fonctionne de cette manière, elle se trompe de questions et elle va au-delà de son champ de recherche et d'action. La science est incapable de nous expliquer l'origine et les causes de notre monde. Et si elle le fait, elle se fourvoie dans une religion scientifique. Et donc dans l'idolâtrie. Si l'être humain est un mammifère, il n'est donc pas un mammifère comme les autres, il est un mammifère unique. Et il est, troisièmement, un être responsable. Nous avons vu que l'animal et l'être humain sont solidaires, et nous avons vu aussi que dans le texte de Genèse 1, l'homme et l'animal ont de grandes différences, et donc que cette solidarité a des limites. L'homme a un statut unique, il est image de Dieu. Et ce statut implique des responsabilités que l'animal n'a pas. L'être humain est un être moral envers qui Dieu a des attentes morales. Notre texte dit clairement que l'homme et la femme sont appelés à dominer le monde animal. Il y a donc une asymétrie, une hiérarchie. L'homme a un statut supérieur à l'animal. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, dominer les animaux, au moment où l'auteur parle, là, en Genèse chapitre 1 ? Cela veut dire que Dieu délègue à l'être humain une autorité sur sa création. Dieu est et reste le créateur de toutes choses, et il confie à son représentant sur terre, l'homme et la femme, la bonne gestion, la bonne exploitation de ce qu'il a créé. À l'homme qui justement n'est pas créé selon son espèce, parce qu'il a un statut unique d'image de Dieu, Dieu confie la responsabilité de tout ce qui est créé selon son espèce. Quelle grande et belle responsabilité. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire dominer les animaux ? Notre compréhension de cette domination est compliquée depuis Genèse chapitre 3. Nous en reparlerons encore plus tard. Pourquoi ? Parce que, à partir de Genèse chapitre 3, le péché entre dans notre monde créé comme un intrus dans ce monde parfait de Dieu. Et depuis Genèse chapitre 3 jusqu'à aujourd'hui, le mal a transformé notre domination du monde en exploitation sauvage et égoïste. Et c'est le cas par rapport aux animaux. Ce qui fait que certaines personnes, par exemple, aujourd'hui, refusent de manger des animaux. Alors, Adam et Ève étaient-ils végétariens ? Étaient-ils véganes ? Alors, on pourrait le penser avec le verset 29, où Dieu dit à l'homme et la femme, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Sauf qu'on sait aujourd'hui que le régime végan n'est pas bon pour la santé, parce qu'il manque un certain nombre de choses dans l'alimentation. Et puis Dieu continue en disant, « Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meurt de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. » Notez quand même qu'il y a une petite différence de régime alimentaire entre l'homme et l'animal. Est-ce qu'il faudrait revenir au régime alimentaire de nos ancêtres pour plaire à Dieu ? Non. Là encore, la Bible n'est pas un manuel de nutrition bio et d'hygiène alimentaire. Mais il y a quand même cette petite différence entre l'homme et l'animal, en termes de régime alimentaire, qui n'est peut-être pas à prendre à la lettre, mais qui n'est quand même pas tout à fait symétrique. Et il me semble qu'il est de la responsabilité humaine, puisqu'il est appelé à dominer le monde animal, de respecter le régime alimentaire du monde animal, qui n'est pas forcément identique au sien. Alors je ne pense pas qu'Adam était nécessairement végétarien. Pourquoi ? Justement parce que Dieu leur ordonne de dominer les animaux. Or, qu'est-ce que c'est dominer les poissons, si ce n'est les pêcher et les élever ? Qu'est-ce que c'est dominer les oiseaux, si ce n'est les chasser ? Encore une fois, le texte de Genèse 1 ouvre la porte à ces activités humaines qui impliquent de fait une responsabilité morale. Quel genre de pêche? Quel genre de chasse? Quel genre de pêche? La pêche à grands coups de chalutier immense qui racle le fond des mers en arrachant toute la végétation qui s'y trouve et qui décime certaines espèces de poissons? Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quel genre d'élevage? Celui des pangasses nourris aux antibiotiques et aux hormones qui se mangent entre eux tellement ils sont nombreux et serrés dans les parcs d'élevage au Vietnam? Vous achetez du pangas au supermarché? C'est pas cher, hein? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous cautionnons en achetant du pangas? On pourrait suivre le même raisonnement avec le saumon d'élevage, par exemple, même si les conditions d'hygiène alimentaire sont quand même différentes. Vous voyez, c'est très concret, la Genèse. Comment est-ce que nous dominons les animaux aujourd'hui au regard des principes que Dieu nous a donnés dès l'origine? Qu'y a-t-il dans votre assiette? Et qu'y a-t-il dans l'assiette des animaux que vous mangez? Nous ne pouvons pas faire l'économie aujourd'hui de ces questions, surtout si nous sommes chrétiens. Nous avons une responsabilité morale devant notre Créateur en ce qui concerne notre manière de dominer les animaux à notre époque. Nos choix de consommation impliquent une responsabilité dont Dieu tient compte et dont nous devrons nous expliquer avec lui. Et je ne suis pas sûr qu'il soit convaincu de nous entendre dire « j'en ai mangé parce que c'était pas cher ». Prenons un autre exemple. J'espère que Fabien me pardonnera d'aborder ce thème. Combien d'entre nous mangent ou ont mangé à KFC ou McDo, ou enseignes comparables? Vous êtes conscient de ce qui tient lieu de steak dans le Big Mac que vous avalez en 5 minutes? C'est du bœuf. Mais quel bœuf? C'est du bœuf d'élevage. Mais quel genre d'élevage? Un reportage du magazine Capital diffusé en 2015 montre que la plupart des bœufs transformés en steak haché viennent d'immenses parcs appelés des feedlots dans lesquels des dizaines de milliers de bêtes sont entassées pendant 18 mois environ. À leur arrivée, on leur fait à chacune de ces bêtes une injection d'hormones de croissance pour qu'ils engraissent plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Ces animaux, qui sont pourtant des ruminants, selon l'ordre créationnel de Dieu, selon leur espèce, ne mangent pas d'herbe verte, contrairement au verset 30, mais des quantités industrielles de maïs, mais transformées en cornflakes, là aussi pour qu'ils engraissent plus vite. On a donc modifié leur régime alimentaire naturel. Mais ce n'est pas tout. Comme ils mangent beaucoup, plus qu'ils ne le devraient, ils produisent beaucoup plus d'excréments, désolé, hein, c'est pas la partie la plus sympathique, mais c'est la réalité de notre manière de dominer les animaux aujourd'hui. Et donc tout au long de leur période d'élevage, ces bêtes piétinent leurs excréments, qu'on doit évacuer par tonnes chaque jour. Où vont ces excréments? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ce n'est pas tout. En tant que ruminant, la vache libère, par sa bouche et par son derrière, un gaz. Et ce gaz émis par la mastication des cornflakes plutôt que de l'herbe. Vous savez ce que c'est? C'est du CO2. C'est du méthane. Eh bien, tenez-vous bien, cela pollue davantage que toutes les voitures du monde. L'élevage de bœufs, pour satisfaire notre consommation mondiale de viande hachée, pollue plus que toutes nos voitures réunies. Et si on ajoute à ça l'incinération des excréments bovins, parce qu'il faut bien s'en débarrasser, ça ajoute encore à la pollution de l'air. Mais ce n'est pas tout. Les bouses de vaches, qui sont donc toxiques, s'infiltrent dans la terre et polluent les sols. Mais ce n'est pas tout. La quantité d'excréments que nos sols récupèrent ainsi atteint les nappes phréatiques. Or, l'eau de nos robinets est puisée dans les nappes phréatiques. Eh bien, nos sources d'eau sont polluées et contiennent tous les éléments que la vache a d'abord consommés et produits. Hormones de croissance, antibiotiques, nitrites, etc. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a autant de sel et de sucre dans les hamburgers industriels. Il faut bien faire passer la pilule de cette viande trafiquée auprès des clients. Vous aviez prévu un McDo en famille ce midi ? Alors vous me direz, ah mais moi je prends des nuggets de poulet. Eh bien c'est exactement le même genre de processus. Sauf qu'en plus, il se peut que le poulet transformé en nuggets dans votre barquette était à moitié mort au moment où il est allé à l'abattoir, parce qu'il a été piétiné ou picoré par ses congénères. Ou parce qu'il était épuisé, ne pouvant plus marcher sous le poids de son engraissement. Ou malade d'avoir passé son temps à piétiner l'éjection de ses copains. Et ça, ce n'est pas aux États-Unis, hein. C'est en France. Les nuggets de McDo, made in France, fabriqués en France. Et nous, on voit fabriqués en France avec le drapeau français et on se dit, ça c'est bon. Fabriqués en France, oui, mais comment ? Dans des hangars éclairés artificiellement, entassés par dizaines de milliers, avec un taux de mortalité d'environ 5% avant l'abattoir. Bienvenue dans l'industrie agroalimentaire de l'homme pêcheur qui exploite le monde animal d'une manière qui n'honore pas son créateur. Et nous, dans quelle mesure participons-nous à cette domination pécheresse du monde animal? Cette domination qui non seulement ne respecte pas la création de Dieu, mais en plus met la santé de notre humanité en danger. D'où vient la viande que vous achetez en supermarché? Avec quoi a été nourri votre poulet de ce dimanche, qui va se retrouver dans votre estomac? Dans quelles conditions a été élevé le poisson que vous allez servir à vos invités? Il est de notre responsabilité de répondre à ces questions. Alors j'ai conscience que nous vivons dans un monde imparfait et que même avec la plus grande rigueur dans nos choix, la plus grande rigueur éthique dans nos choix de consommation, voilà, ça reste forcément imparfait. Mais nous ne pouvons plus nous réfugier derrière ce prétexte pour ne pas faire de meilleurs choix de consommation, de meilleurs choix qui plaisent à notre Créateur. Alors je me suis attardé ce matin sur l'aspect alimentaire de notre domination du monde animal aujourd'hui, parce que c'est peut-être celui qui nous touche de plus près, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Mais il y a bien d'autres sujets qui exigent notre attention et notre discernement. J'ouvre encore quelques pistes de réflexion pour terminer. On pourrait par exemple aborder la question de l'expérimentation scientifique. La science a pour principe de tester un certain nombre de choses sur l'animal avant de l'expérimenter sur l'homme. Et on peut se demander quelles sont les limites de ce champ de recherche animal et humain. Et dans quelle mesure ce que l'on déduit du fonctionnement animal est transposable au fonctionnement humain ? Nous avons vu que Genèse 1 évoque à la fois la solidarité, mais aussi les nombreuses différences entre nos deux mondes, humain et animal. Or, notre science, qui s'appuie toujours davantage sur les progrès techniques, augmente de plus en plus ses possibilités d'action. Et pour l'homme moderne pêcheur, ce qui est possible technologiquement est forcément bon moralement. Le magazine Science et Avenir de cet été, août 2019, avait pour titre « Des cœurs de porc bientôt transplantés aux humains ». Et pour pallier le nombre insuffisant de cœurs humains, pour des greffes par exemple, on se tourne vers la disponibilité des organes d'animaux. le cœur de porc étant anatomiquement très proche du nôtre. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir de cette future possibilité de soins cardiaques ? Il s'agit quand même de sauver une vie. Ou faut-il au contraire s'en méfier ? Autre exemple, le site internet de France Info nous informait en juillet 2019 que, je cite, « Le Japon autorise la création d'embryons hybrides humains-animaux ». C'est plus la science-fiction là, hein ? On y est. Hein ? Dans le but, là aussi, de pallier à la pénurie mondiale de donneurs d'organes. Mais on franchit là une barrière éthique importante. Hein. Que se passera-t-il quand l'être humain pécheur ne se contentera plus de faire des greffes à visée curative ou thérapeutique, mais laissera ses embryons hybrides se développer comme des êtres normaux ? Nous allons, il me semble, vers une confusion entre le monde animal et le monde humain. Ce qui est contraire, c'est clair, au principe de la création de Dieu que nous avons vu ce matin en Genèse 1. Et puis, on peut encore, troisième exemple, penser au progrès scientifique concernant le clonage animal et les portes qui s'ouvrent de ce côté-là concernant le clonage humain. Alors, nous n'en sommes pas encore là en 2019, mais il est très probable que notre société évolue dans ce sens. Et c'est dans ce monde qui va progresser dans sa révolte contre son Créateur que Dieu nous appelle à être ses témoins, ses représentants sur terre encore aujourd'hui. Alors je vous invite à prier. Seigneur, quand tu nous parles de nos origines, tu nous parles à la fois de notre beauté, de notre bonté originelle, ce que nous étions au départ, image parfaite du Dieu parfait. Et tu sais que cela a changé et que nous ne reflétons plus parfaitement ta gloire. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux sur ce que notre monde fait aujourd'hui et auquel nous participons plus ou moins. Et lorsque tu nous parles de nos origines, tu nous parles aussi de la responsabilité que tu nous confies en tant qu'être humain créé pour te représenter sur terre. Comment est-ce que nous allons te représenter aujourd'hui et tout au long de cette semaine ? Il y a beaucoup de défis devant nous pour cette semaine. Et le premier, c'est de nous replacer devant toi, de te demander pardon pour toutes les fois où nous cautionnons, volontairement ou non, la manière dont notre monde pense et agit. Aide-nous et apprends-nous à vivre différemment en tant que chrétiens dans ce monde, à marquer une vraie différence. Aide-nous à être sages dans notre manière de consommer. Aide-nous à prendre soin de notre planète, et en particulier des animaux que tu as créés. Aide-nous à vivre pleinement notre vie humaine, sans nous confondre avec la vie animale, mais en respectant tes principes. Seigneur, nous ne pouvons pas respecter tes principes si tu ne nous viens pas en aide. Nous nous souvenons que le Seigneur Jésus est venu, nous l'avons dit dans la première partie de ce culte, justement pour rétablir dans notre humanité la possibilité de vivre pour ta gloire, de vivre selon les principes que tu as établis dès l'origine. Par nos propres moyens, nous ne le pouvons pas. Mais en Christ, nous pouvons reprendre une vie qui t'honore. Aide-nous pendant cette semaine à rester les yeux fixés sur lui et sur toi pour vivre et consommer d'une manière digne. Aide-nous en particulier dans nos relations avec nos voisins, nos collègues, à pouvoir discuter avec eux d'une manière juste et pertinente et qui les aide à aller plus loin pour te chercher et te trouver. Amen.